9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, demain, à nouveau, un duel Macron-Le Pen à la présidentielle dans un livre brillant, bloc contre bloc. Le sondeur et politologue Jérôme Sainte-Marie analyse la dynamique du macronisme et celle des gilets jaunes, la polarisation de la société autour de deux blocs sociaux antagonistes qui rend possible, dit-il, en 2022, la victoire de Marine Le Pen. Au générique également, trois femmes puissantes. Eva Green, star de cinéma, qui trouve un de ses grands rôles dans Proxima, sur les affres d'une astronaute qui va quitter la Terre, et sa fille. Kim Kardashian, star milliardaire, encore terrifiée d'avoir été la proie il y a 3 ans à Paris d'un papy braqueur, un bandit à l'ancienne. Double portrait dressé par la journaliste Pauline Delassue dans La Nuit de Kim Kardashian. Et Jeanne Hadid, nouvelle star de la scène française, deux victoires de la musique. Elle prolonge ses concerts et publie ses titres en live. Voilà le programme.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Le macronisme, c'est le retour à la lutte des classes. Voilà l'analyse qu'on n'attendait pas de la part non pas d'un gauchiste échevelé, même si Marx est l'une de ses références, mais d'un sondeur et politologue respecté. Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour.
Contre ceux qui considèrent que la France se fragmente, vous pensez au contraire qu'elle se polarise sur une base sociale. D'abord, qu'est-ce qui vous fait dire que le vote Macron était un vote de classe ?
Oui, c'est une chose qui m'est apparue dès la campagne de la présidentielle, c'est à quel point le vote pour Emmanuel Macron était corrélé aux revenus des électeurs. C'est-à-dire que plus on était riche, plus on avait des hauts revenus, du patrimoine, plus également, ça va souvent ensemble désormais, plus on avait un haut niveau de diplôme, plus on était aisé à tout point de vue socialement, et plus on votait pour Emmanuel Macron. C'était déjà une réalité en 2017, mais il était concurrencé dans ce segment électoral par François Fillon. C'est une chose qui s'est confirmé à travers les sondages d'opinion et puis encore plus à travers le vote aux européennes.
C'est ce que vous appelez le bloc élitaire, c'est-à-dire c'est la France d'en haut.
Oui, j'ai essayé d'éviter, parce que je trouvais ça intellectuellement peu satisfaisant, d'être dans une logique peuple contre l'élite, parce que l'élite fait partie du peuple et qu'on n'est pas élu président de la République en étant uniquement, évidemment, le candidat des élites. Donc, j'ai observé qu'autour d'Emmanuel Macron, il y avait bien sûr beaucoup de gens de l'élite véritable, on va dire ça les 1%, vous savez, les célèbres 1%, les milieux dirigeants, mais il y a aussi également énormément de cadres supérieurs. Et puis, c'est peut-être un peu plus inattendu, beaucoup de retraités.
Oui, le renfort des retraités, c'est important dans votre livre. Vous expliquez pourquoi ils sont attachés au fait que le système continue de leur payer les pensions, quoi.
Oui, absolument. Alors, je m'inspire de ce que disait Karl Marx, qui d'un point de vue analytique m'a toujours beaucoup intéressé. Karl Marx, quand il parle des paysans parcellaires de la période de 1848, vous voyez, donc c'est un peu lointain, mais c'est pour dire qu'en fait, les retraités, c'est des gens qui sont pas tout à fait situés, si vous voulez, dans le clivage social. C'est des gens qui, désormais, c'est 17 millions de personnes déjà, aujourd'hui en France, un tiers des inscrits, et qui sont dans une situation assez originale, puisque au fond, ils vivent en fonction de leur activité passée et sur l'activité de ceux qui sont actuellement au travail. Et ces gens-là ont souvent peur pour la pérennité du système et donc de leur pension, et délèguent beaucoup de leur pouvoir politique à l'exécutif en place, et plus précisément désormais à Emmanuel Macron. Ils veulent justement que le système se perpétue, et Emmanuel Macron les rassure largement là-dessus, en tout cas les rassure.
Ce qui est très intéressant, c'est que vous soulignez qu'il n'y avait pas la même cohérence sociale dans le clivage gauche-droite qui brassait des deux côtés des catégories très différentes, avec, pour faire simple, des bourgeois qui votaient à gauche et des ouvriers qui votaient à droite.
Oui, alors il y avait une composante de classe très importante dans le clivage gauche-droite au départ, mais au fil des ans, au fil du fait que bon, peu à peu les identités politiques se sont enracinées dans les familles, dans les lieux, eh bien c'était devenu des grands ensembles culturels. On ne pouvait pas caricaturer la gauche en disant que c'était le parti des ouvriers, c'était plus du tout le cas, et on ne pouvait pas non plus caricaturer la droite, pardon, en disant que c'était le parti des bourgeois. C'était assez composite au fond, il y avait des classes dominantes, des classes populaires, des classes moyennes dans chacun des deux camps, avec l'abolition, en quelque sorte, par les électeurs eux-mêmes, du clivage gauche-droite, eh bien, on est rentré dans une période plus périlleuse, sans doute, parce que les oppositions politiques recoupent très largement les oppositions sociales.
Voilà pour ce premier bloc qui s'est donc formé en 2017, qui a, vous venez de le dire, qui a balayé le clivage gauche-droite. Le deuxième bloc, est en cours de formation, écrivez-vous, par antithèse avec le premier et aussi par détestation du président. C'est ce que vous appelez le bloc populaire, la France d'en bas pour faire vite, qui a trouvé une dynamique dans le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, alors un bloc, si vous voulez, c'est pas exactement une classe sociale. Le bloc, c'est une notion qui est inspirée de Gramsci. C'est un ensemble à la fois social, idéologique et politique.
C'est un imaginaire de lutte sociale.
Voilà, exactement. Donc, avec un projet politique bien précis, c'est très clair pour le bloc élitaire, me semble-t-il. Pour le bloc populaire, ça c'est pas encore tout à fait formé. Il me semble pourtant que c'est en voie de constitution, par réaction essentiellement à la politique d'Emmanuel Macron. Avec ce mouvement des Gilets jaunes, il me semble que c'est une première concrétisation. Le mouvement des Gilets jaunes, au départ, a réuni énormément de travailleurs pauvres du secteur privé. C'est des gens qui ont pour beaucoup voté pour la liste Bardella ensuite et qui auparavant, d'après ce que j'avais pu constater, y compris sur place, sur les Champs-Élysées, dans les entretiens que j'avais pu avoir avec eux, les études d'opinion que j'ai pu lire, ces gens-là étaient plutôt dans le camp, quand ils votaient, dans le camp lepéniste. Et ils expriment une forme de souverainisme. Et peu à peu, il se constitue donc cette polarisation qui est à la fois idéologique, sociale et politique et qui profite désormais directement, oui, me semble-t-il, à Marine Le Pen.
Oui, c'est le débouché électoral naturel de ce bloc, c'est le vote pour le Rassemblement National de Marine Le Pen, vous pensez ?
C'est ce que je pense et surtout je le constate, si vous voulez, quand vous regardez les sondages d'intention de vote à la présidentielle. Alors bien sûr, ça ne veut rien dire en termes de pronostic, mais ça, c'est quand même très intéressant en termes d'état de l'opinion actuel. Vous avez désormais plus de 55% des Français qui choisissent dès le premier tour soit Emmanuel Macron qui se renforce, soit Marine Le Pen. On est autour de 30%. Et dans les sondages d'intention de vote de second tour, bien sûr totalement virtuel, on est dans un rapport de force de l'ordre de 45-55 actuellement. Donc on voit bien qu'il y a effectivement un renforcement qui se fait pour Marine Le Pen, qui tient beaucoup moins à ce qu'elle est ou à ce qu'elle dit qu'à la réaction contre le pouvoir actuel.
Pourquoi Le Pen et pas les autres forces d'opposition ? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec notre invité Jérôme Sainte-Marie, bloc contre bloc.
Europe 1. C'est arrivé demain. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Avec le politologue Jérôme Sainte-Marie, auteur d'un stimulant bloc contre bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du Cerf, qui se réfère souvent à la Deuxième République, 1848-1851. Mais en vous lisant, j'ai songé au début de la Cinquième et au théorème de Malraux qui disait « Entre les communistes et nous, les gaullistes, il n'y a rien », cela tenait du calcul politique pour le pouvoir, mais ce rien a rendu l'alternance à gauche impossible pendant 23 ans jusqu'en 80. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Jérôme Sainte-Marie, qu'entre Macron et Le Pen, il n'y a rien, en tout cas plus grand-chose ?
Alors il y a toujours des millions de Français qui se reconnaissent dans les notions de gauche et de droite et qui refusent de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en tout cas au premier tour. Ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est cependant désormais moins de la moitié du corps électoral. Et surtout, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie cohérence idéologique et sociale des deux côtés.
C'est bien entre Macron et Le Pen.
Entre Macron et Le Pen. C'est bien deux mondes d'un point de vue social et même deux visions du monde qui s'affrontent.
Cohérence qui n'existe plus dans les autres forces politiques.
Alors que de ce point de vue-là, le Parti Socialiste et les Républicains, on le voit d'ailleurs, on l'a vu d'ailleurs aux Européennes, ont un vrai problème parce qu'ils essaient d'articuler de manière subtile le libéralisme culturel et le libéralisme économique en prenant un peu, en refusant un petit peu. Alors que si vous voulez, le macronisme prend tout du libéralisme économique et culturel. Et Marine Le Pen, dans sa ligne actuelle, ça pourra changer, mais pour l'instant, en refuse à peu près tout. Au milieu, vous avez à la fois des gens de gauche et des gens de droite, mais vous avez peut-être d'un point de vue sociologique des classes moyennes, tout simplement, des gens qui refusent de se situer dans ce conflit vertical qui déchire actuellement le pays. Donc, il est peut-être en train d'arriver à ces grands partis de gauche et de droite, ce qui est arrivé au début de la Ve République, vous avez raison, au centrisme. Beaucoup de gens ont essayé, Pierre Mendès France par exemple, de maintenir autre chose que ce clivage gauche-droite qui s'installait. D'autres, comme François Mitterrand, avaient compris que les institutions de la Ve République avaient une logique implacable. Il n'y a pas que la sociologie dans la vie, il y a aussi les institutions, ça compte, les institutions électorales dans notre régime, bien entendu. Et que donc il fallait accepter Et sincèrement, François Mitterrand, c'était plutôt un rôle qu'il jouait qu'une conviction profonde, et bien qu'il fallait accepter ces règles du jeu.
C'est-à-dire le second tour de la présidentielle qui structure, qui continue de structurer la vie politique.
Voilà, donc ça continue à structurer. D'ailleurs, ça a maintenu au forceps, si je puis dire, ce clivage gauche-droite très longtemps, alors qu'à mon avis, les différences entre la gauche et la droite de gouvernement s'étaient sur le fond beaucoup amoindries. Mais désormais, il y a eu ce basculement qui a été favorisé par l'élection d'Emmanuel Macron et qui fait qu'on est véritablement, je le prends très au sérieux, Emmanuel Macron, d'ailleurs je le cite énormément parce que je trouve que notamment ce qu'il a dit avant son élection était extrêmement intéressant. Emmanuel Macron a tout à fait raison de dire qu'on est basculé d'un point de vue politique dans un nouveau monde, ce n'est pas seulement une formule.
Et vous dites même que révolution, qui était le titre de son livre-programme, ce mot de révolution n'est pas usurpé. Alors vous avez dit, vous référez plusieurs fois au discours fondateur de son mouvement En Marche, le 12 juillet 2016, à la Mutualité. Il est toujours ministre, pas encore candidat, mais il annonce la couleur.
Notre modèle social, notre organisation collective, qui a été conçue, au fond, en 1945 et en 1958, elle souffre au milieu de ces changements. Elle les craint. Et ce ne sont pas des ajustements qui permettront d'accompagner cette transformation. C'est bien une refondation radicale des choses.
Une refondation radical, ce qui vous fait dire aussi, Jérôme Sainte-Marie, que Emmanuel Macron, c'est pas la droite, hein, au sens du conservatisme et de la réaction.
Ah non, c'est pas du tout la droite. Il est effectivement dans un projet de transformation sociale, culturelle. Il est prêt à en assumer d'ailleurs le caractère minoritaire, ça apparaît très tôt. Et c'est là où il y a un phénomène de, comment dirais-je, une prise de risque et peut-être une mise sous tension de la société, c'est qu'il refuse, comme il l'a dit dans cet extrait, les ajustements, il parle parfois d'arrangements. En fait, ce qu'il veut dire, c'est les compromis sociaux. Pour l'emporter d'un cadre gauche-droite, eh bien, même les plus modérés de la gauche ou de la droite étaient obligés de composer avec l'aile plus radicale de leur camp, qui était souvent l'aile plus populaire. Et donc, chaque élection de second tour était un compromis social. Là, avant le premier tour et surtout entre les deux tours, Emmanuel Macron rappelle sans cesse à ses soutiens et à ses électeurs que lui ne fera pas de compromis. Il n'a pas besoin d'en faire puisqu'il est face à Marine Le Pen. Et donc, il porte un projet effectivement radical, comme il le dit, un projet progressiste d'une certaine manière, mais qui est un projet tout de même minoritaire. Et donc ça produit peut-être une forme de durcissement de la vie sociale et politique que je crois observer actuellement.
Oui, vous dites que ça augure davantage de conflits et d'affrontements, quelle que soit l'issue de 2022. Face à Macron, Marine Le Pen, qui d'après les derniers sondages a progressé de 10 à 12 points en 2 ans et demi dans les intentions de vote de second tour. Il n'y a plus de plafond de verre, c'est une expression qui vous agace, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, c'est une expression que j'ai beaucoup utilisée moi-même tant que sondeur, vous voyez. Donc, j'ai cédé à cette tentation, à cette facilité. Et en réalité, si vous observez sur le fil des ans, vous voyez bien que Marine Le Pen passe de 15 à 23, de 23 à 33, désormais dans les sondages, c'est virtuel. Mais enfin, il se trouve 43 à 45% de nos échantillons qui déclarent leur intention de voter pour Marine Le Pen au second tour. Et donc, j'ai un peu réfléchi à cette notion de plafond de verre qui était en fait fondée sur un conflit de valeurs. Les gens ont considéré que Marine Le Pen, issue d'un parti d'extrême droite, était un produit politique incompatible avec la culture moyenne des Français. Sauf que les Français ont beaucoup évolué sur les sujets qui étaient les plus clivants, notamment sur la question de l'immigration, de la sécurité, de l'intégration, tout cela. Et désormais, Marine Le Pen n'est pas du tout plus radicale que l'opinion sur ces sujets-là. Donc, il y a toutes sortes d'empêchements, notamment en termes de crédibilité gouvernementale à l'accession de Marine Le Pen au pouvoir. Moi, je n'annonce pas du tout l'arrivée de la victoire de Marine Le Pen en 2022. Ce serait incroyablement imprudent. Mais disons que cette victoire me paraît possible parce qu'il n'y a plus d'opposition de principe dans la majorité de l'électorat français.
Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie. Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme. Votre livre vient de paraître aux éditions du Cerf. Merci.
Merci à vous.
Dans un instant, la rencontre entre l'Amérique d'Hollywood et la France de Michel Audiard, entre Kim Kardashian et un baron du banditisme. La journaliste Pauline Delassue nous raconte la nuit de Kim Kardashian.
Europe 1. De 9h à 10h, le dimanche, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé demain.
Bonjour Pauline Delassue.
Bonjour.
La nuit de Kim Kardashian, votre livre qui paraît chez Grasset, c'est l'histoire du plus gros braquage de ces 20 dernières années. Une star internationale a saucissonné dans la baignoire de sa chambre d'hôtel pour un vol de bijoux de 9 millions d'euros. On connaît l'histoire. Et comme vous êtes journaliste à Paris Match, la vie de Kim Kardashian, vous était sûrement familière. Ce qu'il est moins, c'est le profil et le parcours de celui qui va imaginer et fomenter ce casse intruant en cavale âgé de 60 ans, avec qui vous avez pu correspondre en prison. Un bandit à l'ancienne, c'est ça qui vous a fasciné?
Oui, ce que j'aime, c'est vraiment son univers, le fait qu'il... Il est entouré comme ça de vieux bandits dont il devient le chef très vite. Son parcours depuis la banlieue parisienne jusqu'en fait au sommet du grand banditisme. Il fait beaucoup de trafic de stupéfiants et des braquages assez inédits. Et puis il est marrant parce qu'il est, il est voyou mais en même temps très coquet, très dandy. Il écoute Jacques Brel et Jean Ferrat. Il traîne dans les bistrots la nuit. Et puis il connaît pas du tout Kim Kardashian. Et quand il découvre qui elle est vaguement, il s'en fiche, il y va quand même. Et il trouve l'infime moment où cette star qui est hyper surveillé, toujours filmé, et seul dans son lit, entouré de ses bijoux. Donc c'est un bon coup.
Il a braqué des banques, il a convoyé du hachiche dans des Fiat 600.
Ouais, c'est les premiers, premières remontées, pas très rapides, parce qu'en Fiat 600, mais il lance ça comme ça. Ouais.
Il trouve refuge en Espagne, près de Malaga, il est arrêté, extradé, relâché, en liberté conditionnelle, et puis un jour il s'évade de... tribunal.
Il s'évade, il profite d'une maladresse des policiers qui l'accompagnent, enfin d'une erreur même grave. Il sort juste avant un verdict et pour fumer une cigarette et puis il se fait la malle. Il réussit à partir, il n'a pas les menottes. Et là, il commence une cavale très longue où il vit sous une fausse identité, où il essaye toujours pour renflouer les caisses, parce que ça coûte très cher de vivre en cavale. Il faut de l'argent, donc il remonte plein d'affaires, de coups, ouais. Il essaye de toutes les manières. Et puis c'est très fatigant, en même temps très exaltant de vivre comme ça.
Et au moment du braquage de Kardashian, il est en cavale depuis 6 ans. Entre-temps, il s'est lié avec une trafiquante, Cathy. Mmh. Et un jour, dans un bar du 3e arrondissement où ils ont leurs habitudes, Cathy et Omar, puisque vous l'appelez Omar, ils croisent un habitué, un chauffeur de célébrité.
Un jeune mec qui est là et qui raconte comme ça un peu machinalement « Ah oui, au fait, dans ma voiture... Aujourd'hui, il y avait Kim Kardashian. Voilà. Et c'est dans ce bistrot qui s'appelle le Tabloïd. En plus, il fallait l'inventer. Enfin, je ne l'ai pas inventé, justement. Ça s'appelle vraiment comme ça parce que la compagne du patron du bar travaille au journal Voici. Donc, ils ont l'info comme ça. Et de là, Omar et ses complices vont dans un magasin de téléphonie. Ils ne connaissent pas du tout Kim Kardashian. Ils ont tous la soixantaine. Ils ne parlent pas anglais. Et ils tapent son nom sur Google, et là apparaissent des photos pas possibles, et des diamants, et ils comprennent que c'est une grosse arche. Je pense qu'ils ne mesurent pas du tout la portée de ce qui va se passer après. Quoi. Ils ne se rendent pas compte à quel point elle est célèbre, mais ils comprennent qu'en tout cas, il y a de l'argent à se faire.
Ouais. Vous racontez enfin, Pauline Delassus, cette nuit où la vie contrôlée, le monde confortable de Kardashian bascule. Quand elle comprend ce qui arrive, qu'elle voit aussi les armes qui sont braquées sur elle, elle pense qu'elle va être tuée ou enlevée, au moins que sa vie ne sera plus jamais la même.
Oui, elle est en train de s'endormir, elle est nue dans son lit, il y a ses bijoux comme ça autour d'elle, aucune sécurité, pas de caméra, pas de coffre-fort, rien, donc ce qui est quand même assez dingue.
C'était le bon moment, effectivement,
c'était vraiment
pour l'attaquer.
Le bon moment. Et là, surgissent deux hommes cagoulés, armés, qui tiennent en otage, je puis dire, le gardien de l'hôtel. Et elle pense qu'elle va être violée ou alors tuée. Elle vient d'une histoire familiale où son parrain, O.J. Simpson, qui est un grand champion de football américain, a assassiné son épouse de manière très violente. Elle a suivi le procès quand elle était ado. Son père était l'avocat d'O.J. Simpson. Elle vient d'un pays où les gens sont armés beaucoup plus qu'en France. Donc elle a quand même en tête des images très dures, peut-être plus qu'une Française l'aurait eu. Elle pense tout de suite à la mort. Quoi. Et en plus, ils la braquent vraiment. Ils lui mettent le pistolet sur la tempe. Ils la baillonnent, ils gottent, ils la mettent donc dans la baignoire. Donc c'est une scène violente. Ils lui crient dessus et ils prennent les bijoux. Elle comprend quand même au bout de quelques minutes qu'ils veulent les bijoux, mais elle a très peur et elle ressort traumatisée. Et elle revient, elle décolle de Beauvais très vite et elle rentre aux États-Unis et après elle mettra des mois à revenir. Maintenant elle revient 24 heures à Paris, mais elle a changé d'hôtel évidemment.
Votre livre, Pauline Delassus, c'est deux histoires parallèles qui n'avaient rien a priori pour se rencontrer. C'est ça qui est fascinant et amusant. Donc l'histoire de Mar dont on vient de parler, puis celle de Kim Kardashian dont il faut parler, famille bourgeoise devenue star de la télé-réalité où tout est excessif. Ce braquage a changé sa vie.
Ça lui a enlevé une certaine tranquillité, ça c'est sûr. C'est-à-dire que maintenant, elle vit entourée de gardes armés avec des caméras partout. Il faut montrer une pièce d'identité quand on va chez elle pour n'importe qui, même les gens de sa famille. Donc oui, elle vit comme ça, ce qui est, je pense, pas forcément agréable. Et ça lui a permis de produire deux épisodes de l'émission de télé-réalité qui ont été extrêmement vus. Donc elle a fait aussi tirer profit de ça. deux épisodes où elle raconte, pas en détail parce que l'instruction était en cours, mais elle raconte, elle s'épanche beaucoup, elle pleure, elle raconte son traumatisme. Il y a des montages qui remontrent un peu, qui rejouent la scène. Voilà, et ensuite elle en a tiré aussi toute une sorte de storytelling où ça lui permet de raconter une épreuve qui est sans doute sincère et réelle, mais elle en fait quelque chose de elle en fait du spectacle.
C'est
quoi,
la
comme,
tradition
c'est
familiale
métier.
Chez les Kardashians, voilà. Tout sert, mais tout concourt à la célébrité.
Tradition familiale qu'elle mène elle d'ailleurs, c'est elle qui a eu cette idée dès le début avec sa mère de faire cette télé-réalité.
Omar lui a écrit une lettre. Oui. Depuis sa prison,
oui.
Mais elle s'en est pas servie.
Alors, a priori, elle l'a reçu. Non, elle l'a pas médiatisé. Non, ça, je pense qu'elle ne pouvait pas, d'un point de vue juridique, l'utiliser. Mais en tout cas, elle aurait dit qu'un jour, elle a dit, en rigolant, un jour, je pourrais le défendre. Parce que comme elle vient de reprendre ses études de droit, de commencer des études de droit, et elle veut devenir avocate, pénaliste. Donc, elle aurait eu cette sortie un peu drôle, second degré, en disant que bientôt, elle pourrait être l'avocate d'Omar.
Avocate ou, en tout cas... veut faire un métier public ou laissez-vous entendre à la fin éventuellement candidate, une carrière politique, c'est possible ça ?
En tout cas, elle est déjà politique. C'est-à-dire qu'elle s'engage sur plein de sujets. Elle a été quand même deux fois à la Maison Blanche pour défendre la réforme carcérale pour laquelle elle milite. Il y a plein de sujets sur lesquels elle s'engage. Et elle a quand même 250 millions de followers, si on cumule sur tous les réseaux sociaux, qui sont potentiellement 250 millions d'électeurs. J'exagère, mais... Et c'est tout que des gens soit auront le droit de vote bientôt, soit l'ont déjà. Et c'est des jeunes électeurs qui sont un peu l'avenir électoral du pays. Et elle veut faire ce métier avocate qui lui donnerait une crédibilité nécessaire. Et elle milite déjà pas mal pour le Parti démocrate. Elle soutient à chaque fois, elle veut que les gens aillent voter. Elle encourage les jeunes et tous ses fans à aller voter à chaque élection. Et elle est ambitieuse. Et ce qui lui manque, elle a conquis le monde du textile, du luxe, de la télé. Mais il lui manque la politique, donc c'est possible.
Et Omar, dans quel état d'esprit est-il ? Il a fichu sa vie en l'air. Oui, je sais qu'il est en prison, il y est pour un petit moment, sûrement.
Ouais. Par contre, il a gagné quelque chose, je pense qu'il n'espérait pas, c'est une célébrité. C'est que maintenant, son nom sera pour toujours associé à celui de Kim Kardashian. Et je pense que vu son caractère, ça doit lui faire un peu plaisir quand même. Il a quelque chose, il a un ego pour être un grand chef de voyous comme ça, il faut avoir de l'ego. Ouais. Donc ça doit quand même l'amuser d'avoir réussi ce casse.
Pas au point de profiter de cette célébrité comme Kim Kardashian, évidemment. Les deux destins croisés, donc, en quelque sorte, d'Omar et de Kim Kardashian. C'est donc dans votre livre « La nuit de Kim Kardashian » chez Grasset. Merci beaucoup, Pauline Delassus.
Merci à vous.
Europe 1.
À suivre, l'une des plus belles voix de la pop française d'aujourd'hui, Jeanne Hadid, qui remplit les salles et le fait entendre sur un disque live. À tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Il y a des voix qui vous font vibrer et qui vous donnent le frisson, et il y a des pulsations qui vous font danser. Vous mariez les deux sur une scène et vous avez Jeanne Hadid en live. Bonjour Jeanne Hadid.
Bonjour.
Radiate, votre deuxième album, ressort en double album avec les enregistrements studio et 14 titres live issus de votre dernière tournée. On vient d'en entendre un petit bout. Ça vous fait quoi, le public qui bouge avec vous et vous applaudit? Ça vous procure quoi?
De la joie. Je suis contente de les voir quand je monte sur scène. C'est toujours une surprise de les découvrir là.
Une surprise encore?
Ouais, bah oui. Enfin, en tout cas, ça continue de me plaire et de me surprendre, ouais. Et j'aime bien d'ailleurs ce sentiment, donc peut-être que je l'entretiens un petit peu.
Du plaisir, de la confiance.
Ouais, ça permet de continuer à avancer, de se poser un peu moins de questions et d'être plus à l'écoute de ses propres désirs. Ouais.
Vous vous posez encore des questions après vos deux victoires de la musique en février dernier pour mémoire, meilleure interprète féminine et meilleur album rock pour Ready yet.
Non, la question, c'est, ça fait partie du boulot. C'est grâce à ça qu'on continue d'avancer.
En tout cas, on peut dire que la scène vous fait rayonner. C'était l'injonction que vous vous étiez donnée. Ready yet, rayonne.
J'aime ça, en fait, vraiment. J'en fais beaucoup, je fais beaucoup de concerts. C'est un aspect de mon métier qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire en termes même de réflexion sur ce qu'on présente aux gens, comment on les convoque, comment on fait quelque chose ensemble. Tout m'intéresse dans les concerts. Oui.
On écoute la version live de la chanson qui a donné son titre à l'album. Feel my anger radiate, my brutality. Still feels empty around me, but now I can bear vacancy. Radiate, Jeanne Adèle. Il y a qui sur scène? Deux claviers, un batteur?
Voilà, il y a Narumi Hérisson au clavier, au chant, Audrey Henry, clavier, chant, percussion, et Emiliano Touri, batterie.
Mais en ce moment?
Mais en ce moment, je suis tout seul, oui. En ce moment, je suis en tournée. On a monté un autre spectacle pour les théâtres. Où je suis seule sur scène, oui.
Avec
toute mon équipe technique. Non, je suis vraiment toute seule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la basse qui apparaît, mais il y a Emiliano Touri, donc, qui est toujours avec moi, mais qui est lui en régie également. Donc, c'est vraiment une forme spectacle qui n'a rien à voir avec ce que les gens ont vu jusqu'à présent.
Toute seule avec votre principal instrument. Votre voix. Can you feel the vibration waiting for me? Another kind of sensation. Can you see how I operate now? How modulate now? Can you feel the vibration? Mutate, Jeanne Adède, parlez-nous de votre voix. Comment la trouvez-vous aujourd'hui, votre voix, Jeanne Adède?
Ah, moi, je m'entends bien avec ma voix.
C'est bien, c'est déjà bien.
Ouais, non, c'est vrai. C'est d'ailleurs mes grandes sources de plaisir, chanter. Donc voilà, j'essaye d'y faire attention, d'en prendre soin, de l'écouter. Et puis...
Vous l'avez entendu changer?
Oui, mais je l'ai travaillé dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle était plus légère et plus cristalline quand j'étais plus jeune.
Je rappelle que vous avez exploré à peu près tous les registres, le chant lyrique, le classique, le jazz, la musique improvisée, le rock, la pop, l'électro.
Oui, voilà.
Et que vous avez longuement travaillé votre voix, appris à la maîtriser. Combien d'années au Conservatoire National de Paris, section jazz?
J'étais au CNSM en jazz pendant 3-4 ans. En fait, je l'ai envisagé vraiment comme un instrument, à savoir faire quel est le son qui me ressemble, en fait. Et c'est vrai que très léger et cristallin, c'était pas vraiment moi. En tout cas, à un moment donné, ça correspondait plus tellement. Donc j'ai essayé de faire qu'elle corresponde à la personne que je me sens être.
Qu'est-ce qui vous reste de ces années de jazz?
Je crois de l'indépendance. J'ai compris ça récemment en allant revoir un concert de jazz très peu de temps, Alain Jean-Marie, un grand pianiste. Oui. En l'écoutant, je me suis dit que justement il y avait ça entre les musiciens, c'est-à-dire que chacun est responsable de tout dans la musique. Il est responsable de l'entièreté de ce qui se passe. Et je crois que ça, c'est un vrai enseignement, c'est-à-dire qu'on est à la fois avec les autres et à la fois indépendant.
Est-ce que ça vous ennuie si je fais écouter quelques échos de votre vie d'avant?
Non.
Bon, j'espère avoir bien choisi. Alors, vous m'aviez beaucoup impressionné.
Quoi, oui, c'est vrai, oui.
Ah, vous me direz. Vous m'aviez beaucoup impressionné sur ce poème de Léo Ferré, mis en musique par Yves Rousseau. Où va cet univers, dérivé comme un signe, sur les temps désirés, où nos âmes remorquent toute une exhalaison d'horreurs et de signes. Il est 5 heures ici. Ça commence très doucement et ça se finit comme un cri.
C'est un grand crescendo.
poète, vos papiers.
Ouais, ouais, bah c'était d'ailleurs un des premiers moments où c'était un peu moins de jazz d'ailleurs, où c'était, ça commençait à être un peu chanson et à prendre en charge cette place-là de raconter une histoire, de défendre un texte, de prendre une fonction sur scène qui était un peu différente de celle que j'avais jusqu'alors. Et ben ça fait partie des choses qui m'ont construite, oui, évidemment.
Et puis, avec Stéphane Kerecki, une chanson de Michel Legrand pour les Demoiselles de Rochefort.
Est-elle loin d'ici ? Est-elle près de moi ? Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ? Ou bien fille de roi ? M'importe son rang, puisque je suis artiste. Que l'amour dicte sa loi.
La chanson de Maxence pour le Stéphane Kerecki Quartet avec la voix de Jeanne Haddad.
C'est sublime. Un bon souvenir, ça. C'est avec John Taylor, qui est un grand pianiste, qui est malheureusement décédé depuis. Anglais, une légende d'ailleurs du jazz européen. Et on entend les quelques notes d'Émile Parisien à la fin, qui est aussi un grand musicien.
Bon, c'est fini tout ça ? Vous avez tiré un trait ?
Bah, pour le moment, oui. Même je dis ça, mais on va se retrouver encore avec Yes is a Pleasant Country cet été. Oui. Non, mais ça fait partie de ma vie. Donc voilà, après, je choisis avec choix, quoi.
Et on vous entend à cette occasion-là, dans ces deux occasions-là, chanter...
En français.
En français.
Eh oui. Un jour, ça va arriver.
Bon, en tout cas, vous n'en avez pas fini avec le plaisir de chanter, vous nous l'avez dit, de jouer avec votre voix, de jouer de votre voix, Jeanne Haddad. Si je vous demande de me citer une voix de femme qui vous fait vibrer.
On parle de jazz, c'est vrai que la première qui me vient à l'esprit, c'est Abel Lincoln, qui est un peu méconnue malheureusement, mais qui était une grande chanteuse, qui a vraiment décidé même de mon orientation professionnelle. Vraiment, c'est en la voyant que je me suis dit que je voulais faire ça comme métier. Ouais.
Et une voix d'homme ?
Je pense à Prince, parce que voilà, c'est le plus évident, mais qui avait d'ailleurs une voix de fossé, de falsetto, comme on dit, assez aiguë. Mais ouais, bon, je pense à lui, naturellement.
Jeanne Haddad, Radiate, nouvelle édition de votre album avec 14 titres live et une nouvelle série de concerts en cours. Draguignan, Perpignan, Cognac, Mulhouse et le 14 décembre au Trabendo. À la Villette à Paris, mais c'est complet.
Bah oui, c'est déjà complet.
Bon, il faudra guetter d'autres dates à venir. Merci beaucoup, Jeanne.
Merci beaucoup. Au revoir.
Europe 1.
Le cinéma à suivre avec Eva Green, enfin dans un grand rôle en français, dans Proxima d'Alice Vinocourt. Elle est une astronaute tiraillée entre son rêve spatial et l'amour de sa fille, féministe et bouleversant.
Europe 1. Vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen pour C'est arrivé demain.
Bonjour Eva Green.
Bonjour.
Pour Proxima, Alice Vinocourt vous a offert un grand rôle qui est aussi un double rôle, astronaute et mère de famille. L'astronaute va quitter la Terre pendant un an, la maman va devoir quitter sa fille de 7 ans qu'elle élève seule. Cette mission dans l'espace, c'est son rêve, c'est quoi ? C'est un rêve de gosse ?
Bien sûr, sa vie est complètement bouleversée quand elle apprend qu'elle est sélectionnée pour participer à cette mission spatiale d'une durée de... un an, et ça n'arrive pas souvent. Vous savez, il y a plein d'astronautes qui s'entraînent toute leur vie et qui ne partent pas. Donc là, une opportunité comme ça, ça ne se représentera peut-être pas une deuxième fois. Elle est évidemment ravie, mais en même temps, c'est très douloureux pour elle, parce qu'il y a sa petite fille qu'elle aime profondément. Voilà.
C'est un rêve qui impose des sacrifices déchirants avec, vous venez d'en parler, une petite fille qui est bouleversante. Elle s'appelle Zélie, dans la vraie vie.
Oui, elle est assez incroyable. C'est une vraie personnalité, une vieille âme qui a 8 ans, qui est très brute comme ça, qui a plein d'émotions, qui a beaucoup d'humour. Non, elle est absolument formidable.
Elle vous fait pas à vous, mais à votre personnage, un peu de chantage affectif aussi.
Ah, bien sûr, c'est pour elle, c'est très très difficile d'imaginer sa maman partir pendant un an. Et puis aussi, quand on est astronaute, il y a la possibilité de mourir quand on décolle, c'est quelque chose de très dangereux. Donc c'est très douloureux pour cet enfant, mais cet enfant aussi va grandir, va rentrer en phase d'indépendance grâce à tous ces événements.
Tu savais que ta maman allait partir un jour ? Ça te fait très très peur, un peu peur.
Un peu peur.
Alors ça, c'est le versant familial, maternel, et puis il y a le versant spatial, l'entraînement des cosmonautes dans leur véritable cadre, à Cologne, à l'Agence spatiale européenne. Vous levez les yeux au ciel.
Oui.
Près de Moscou, à la Cité des Étoiles, et à Baïkonour, deux lieux qui, je crois, n'avaient encore jamais été montrés au cinéma. Univers et exercice impressionnant, angoissant.
Extraordinaire. Pour moi, ça a été un vrai privilège de tourner dans des décors réels, avec des vrais entraîneurs. Tout était vrai. Enfin, sauf que je n'ai pas fait de centrifugeuse. C'est asif, comme
même,
on dit.
Même à basse vitesse, non, vous ne l'avez pas fait du tout.
Non, j'ai assez peur des choses qui tournent, même des manèges. Donc, ouais, j'imagine pas la centrifuge.
Impressionnant.
C'est très impressionnant de tourner dans cette ville Star City qui est complètement dédiée à la conquête spatiale, et puis de tourner à Baïkonour au Kazakhstan dans les steppes kazakhs. Il y a quelque chose de très sacré, magique. Bon, c'est là où les fusées décollent. Et d'avoir vécu ça a été pour moi un souvenir mémorable.
C'est aussi un univers d'hommes, même s'il y a eu quelques femmes cosmonautes. Vous êtes la seule femme au milieu d'hommes.
Oui, il y a moins de femmes astronautes. Évidemment, comme ça, de l'extérieur, c'est plus difficile d'être une femme dans ce milieu-là parce qu'on est moins forte physiquement. Déjà, il faut le scaphandre, la combinaison spatiale est extrêmement lourde. Il faut être très musclé. D'ailleurs, j'ai dû me muscler pour
ce
rôle. Ouais, parce que c'est très très lourd le scaphandre.
Vous paraissez tout de même, si je puis me permettre, quand même encore extrêmement frêle à côté de Matt Dillon.
Ah oui, il y a du chemin là, c'est sûr. Non, j'ai vraiment travaillé avec un entraîneur physique. Et d'ailleurs, ça m'a quand même aidé aussi pour trouver une certaine force dans le personnage, de se sentir forte physiquement. Ouais. C'est un métier qui est extrêmement exigeant physiquement, mais aussi mentalement. Ce sont vraiment des super-héros, parce qu'il y a ce sens du sacrifice, cette soif d'aller au bout de soi-même pour l'intérêt de la science qui est fascinant.
Et un sentiment dans les exercices, et puis ensuite dans la capsule, plus tard, d'enfermement. Vous n'êtes pas claustrophobe, on ne vous a pas imposé des choses qui vous enfermaient de cette façon-là?
Non, je ne suis pas du tout claustrophobe, mais ce sont des gens ce sont des cobayes. Et ils le disent eux-mêmes, hein. C'est vraiment pour la science, c'est une passion extrême avec des gros enjeux extrêmes. Il y a quelque chose de christique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont là-haut pour découvrir le secret de l'existence. Ouais.
En tout cas, c'est ultra réaliste. J'ai vu Proxima aux côtés de Claudie Agnoret, qui m'a dit « J'ai revécu mon vol, beau compliment ». Et elle avait une petite fille de 3 ans lors de sa deuxième mission, puisqu'on la voit au générique de fin. Alice, la réalisatrice, a collecté des photos de famille avec les cosmonautes femmes qui sont parties dans l'histoire.
Oui, alors elle rend vraiment hommage aux femmes astronautes. Ouais.
Et vous savez peut-être que le film vient d'être projeté à bord de la station spatiale internationale pour un astronaute italien qui s'appelle Luca Parmitano.
Oui, je viens de lui parler d'ailleurs là, il y a
c'est
une heure. Oui, il a adoré le film, il m'a fait visiter toute la station, il était comme un petit garçon. Parce que c'est Luca, on l'a rencontré quand on était à Star City, il s'entraînait. Vous savez, c'est un emploi du temps qui est absolument dingue, hein, être astronaute. C'est très difficile d'avoir une vie tout court. Et donc là, c'était vraiment un privilège de pouvoir lui parler que... là-haut, quoi. C'est surréaliste.
Et je ne savais pas qu'on pouvait voir visionner un film à l'intérieur de la station spatiale.
Ils peuvent se créer une séance de cinéma, si, ils ont un écran. Ouais. Ils l'ont tous visionné dans la station, ce qui est un honneur. J'espère qu'ils ont aimé ma performance d'astronaute.
Et en apesanteur.
En apesanteur, c'est très chic.
Eva Green en super-héroïne avec enfance, qui n'est pas très fréquent, ce qui n'est pas très courant au cinéma. Proxima, ce sera dans les salles mercredi prochain. Merci d'avoir répondu à Europe 1.
Merci. Europe 1.
Et merci d'avoir suivi cette émission préparée par Julien Cotreau, réalisée par Guillaume Vasseau et Julien Blanc. Avec une pensée pour Marina Bruzès, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, 9h10. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.